à tous. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Retour vers le futur, nous allons à nouveau traiter d'un conflit peu relayé par les médias et donc moins connu de tous, la guerre en République démocratique du Congo ou RDC. En effet, le pays subit depuis plusieurs années l'assaut des combattants du M23, un groupe de rebelles tutsis appuyés par le Rwanda, semant le chaos dans l'est du pays. Comme la guerre au Soudan, le conflit, qui pourrait bien s'étendre à l'échelle régionale, constitue une crise majeure sur le plan humanitaire et provoque de nombreux déplacements de population. Pour démarrer, un point géographique. La RDC est située en Afrique centrale. C'est un pays grand comme 4 fois la France et un des plus peuplés du continent, puisqu'il abrite plus de 100 millions d'habitants. Qu'est-ce qui s'y passe ? Le 28 janvier dernier, Goma, la plus grande ville de l'est de la RDC, avec près de 800 millions d'habitants, a été prise par les rebelles et cela a marqué un tournant dans la guerre larvée. Mais comment se fait-il que la RDC soit déstabilisée par le M23 ? Qu'est-ce que c'est que ce groupe de rebelles ? Quelles sont ses motivations et ses appuis ? Comment le conflit a-t-il débuté et en quoi implique-t-il les pays voisins ? Pour comprendre l'origine du conflit entre la RDC et le M23, revenons au milieu des années 1990. Depuis plus de 30 ans, le Rwanda, pays frontalier de la RDC, connaît un conflit ethnique entre les peuples Hutu et Tutsi. En 1994, les Tutsis sont pris pour cible et les tensions se transforment en un conflit armé d'une violence extrême, culminant en un génocide. En 4 mois, plus de 800 000 personnes, dont une majorité de Tutsis, sont massacrées par le régime Hutu. À la fin du génocide, Paul Kagame, Tutsi, devient vice-président du Rwanda, tandis que 1,5 million de Hutus fuient à l'est dans la région du Kivu, en RDC. Par la suite, de 1998 à 2003, cette région du Nord Kivu est le théâtre d'une guerre majeure impliquant une dizaine de pays africains. Depuis lors, des groupes rebelles n'ont cessé de grandir à l'est du pays qui échappent au contrôle de l'État. Essentiellement composés de Tutsis congolais, ces mouvements se sont constitués afin de contester les ex-génocidaires Hutus rwandais réfugiés dans la région depuis la fin du génocide. Le 23 mars 2009, un accord de paix est signé entre la République démocratique du Congo et une milice pro-Tutsi, le CNDP. Mais 3 ans plus tard, en mai 2012, d'anciens rebelles du CNDP, intégrés à l'armée congolaise, se révoltent. Ils accusent le gouvernement de marginaliser la minorité tutsi congolaise et donc de ne pas respecter l'accord signé en 2009. C'est dans ce contexte que naît le mouvement du 23 mars, abrégé en M23, en référence à l'accord de 2009. Dès sa création, le M23 lance une offensive à l'est de la RDC et prend le contrôle de Goma pour quelques jours avant d'être repoussé par les forces armées congolaises. À l'époque, l'ONU accuse le M23, mais aussi l'armée congolaise, de viols de masse, crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour des faits ayant eu lieu avant, pendant et après la prise de Goma. En 2013, un accord de paix régional est signé entre la RDC et le M23. Resté inactif depuis, le groupe armé réapparaît en fin 2021, provoquant une nouvelle situation de crise entre la RDC et le Rwanda, qui joue un rôle majeur dans le conflit. En effet, le M23 est largement soutenu par les forces du pays, cela depuis sa création. En juillet 2024, l'ONU estimait entre 3 000 et 4 000 le nombre de soldats rwandais combattant avec le M23. Le président rwandais, Paul Kagame, réfute, lui, ces accusations. Le Rwanda est un pays qui possède peu de ressources naturelles, et c'est certainement là une de ses raisons pour soutenir le M23. Et pour cause, l'est du territoire congolais est riche en minerais, notamment l'or, le coltan ou l'étain, des ressources rares qui servent à la fabrication des batteries ou autres équipements électroniques. Ainsi, depuis avril 2024, le M23 s'est par exemple emparé de la mine de Rubaya, à l'est de la RDC, qui produit un quart du coltan mondial. Par ailleurs, les enquêtes de l'ONU ont montré que le M23 reçoit également le soutien de l'Ouganda, un pays voisin. De son côté, le Rwanda justifie son intervention dans l'est de la RDC par la présence d'anciens génocidaires Hutus regroupés au sein d'un groupe armé actif dans l'est de la RDC. Mais plus de 30 ans après le génocide, ce prétexte est désormais fragile. Ainsi, face au M23 soutenu par le Rwanda, la RDC, qui connaît des fragilités structurelles et une armée défaillante, se retrouve fortement déstabilisée. Si l'on revient à l'actualité du conflit, comme je vous le disais, fin janvier, le groupe rebelle a officiellement pris le contrôle de la capitale régionale du Nord Kivu, Goma, à l'est du pays. Cette attaque s'inscrit dans le cadre d'une offensive de plus en plus vaste menée depuis 2022. Avec environ 3000 morts selon l'ONU, l'armée régulière congolaise mais aussi les civils sont touchés. Durant ces attaques, le M23 et leurs alliés ont en effet utilisé des munitions lourdes dans les zones civiles. De plus, certains soldats qui servent dans la mission de stabilisation de l'Organisation des Nations Unies en RDC, la MONUSCO, ont aussi perdu la vie. Des missions de stabilisation sont en effet déployées dans le pays depuis 1999. L'ONU et le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, s'inquiètent aussi des nombreuses conséquences dévastatrices des combats, notamment les viols, mais aussi les pillages, les pénuries alimentaires et le risque de dissémination de maladies comme le choléra ou la rougeole. La prise de territoire s'est accompagnée de tentatives de mise en place d'une administration civile par le M23 pour conforter son contrôle sur la région. Ces nouvelles autorités ne sont évidemment pas reconnues par Kinshasa, la capitale de la RDC. Ainsi, la population en subit les conséquences. Le système bancaire des habitants est bloqué, ainsi que l'accès à l'eau et l'électricité. Les écoles sont aussi fermées. La question des personnes déplacées est aussi un problème humanitaire majeur. L'ONG Médecins Sans Frontières a par exemple été contrainte de suspendre temporairement certaines de ses activités en périphérie de Goma à la suite de plusieurs jours de bombardements intenses d'artillerie. Pour exprimer leur frustration face à l'incapacité de la communauté internationale à mettre fin aux violences, des centaines de manifestants en colère ont allumé des feux devant des ambassades occidentales, notamment les ambassades françaises et états-uniennes. Aujourd'hui, le M23 continue sa progression et d'autres régions de la RDC sont menacées. En effet, après avoir annoncé un cessez-le-feu humanitaire, le M23 a néanmoins lancé début février une nouvelle offensive au sud Kivu, qui connaît déjà une situation humanitaire inquiétante. La province compte en effet 1,65 million de personnes déplacées. Bien que ses intentions soient encore floues, les objectifs du M23 pourraient aller beaucoup plus loin. Lors d'une conférence de presse peu après la prise de Goma, Bertrand Bisimwa, président du M23, a en effet déclaré vouloir, je cite, « continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa afin de renverser le président congolais ». Alors que plusieurs pays voisins de la RDC redoutent un embrasement régional, la médiation régionale tente d'apaiser la situation pour mettre fin au conflit. Ainsi, la Communauté des États de l'Afrique de l'Est et la Communauté de développement d'Afrique australe sont parvenus à organiser une rencontre entre les présidents congolais et rwandais le 8 février dernier lors d'un sommet régional en Tanzanie. Les pays voisins appellent ainsi à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Malgré ces initiatives de paix, l'issue du conflit reste encore incertaine. La crainte qu'ils prennent en ampleur et s'étendent à échelle régionale et grande, tandis que la population civile subit une crise humanitaire majeure. Selon l'ONU, 1,5 million de personnes ont déjà été déplacées par les combats depuis le début de l'année. De plus, de nombreux facteurs sous-jacents entrent en jeu. Les minerais de l'est de la RDC sont au cœur du conflit, et il faut traiter cette question si l'on veut parvenir à une paix globale. Le comportement contradictoire du Rwanda dans le conflit en cours complique également les efforts de paix. En effet, Kigali continue de nier le soutenir le groupe armé M23, mais participe aux négociations qui impliquent le M23 et le gouvernement de la RDC. Ainsi, une pression de la communauté internationale est indispensable pour mettre fin aux agressions. Mais le contexte international rend toute action diplomatique difficile à mettre en place. Si pour la première fois depuis plusieurs années, l'UE ose directement condamner le Rwanda de ne pas respecter le droit international et dénonce la présence militaire du pays en RDC, aucun engagement n'a cependant été pris pour l'instant et parvenir à un accord à 27 sur d'éventuelles sanctions sera compliqué. De plus, l'élection du nouveau président américain Donald Trump sème le doute sur l'implication des États-Unis dans le conflit. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère vous avoir éclairé sur ce conflit qui pourrait bien prendre de l'ampleur. Merci pour votre attention. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Retour vers le futur.